Peut-on être sans avoir été ? Telle est la question que nous allons nous poser ce soir dans cette émission. Bienvenue dans le deuxième CMA. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de CMA, c'était mieux après, où on revient sur les origines des choses. Et pour remonter, et pour remonter les fils créatifs, nous avons des détricoteurs professionnels qui, vous allez voir, ont une palette de sujets des plus éclectiques. Alors si vous êtes curieux de savoir pourquoi les choses sont comme ça aujourd'hui, voici le sommaire de la première partie de CMA. Alors, donc, rien n'arrête notre premier chroniqueur ce soir, même pas les murs. Bonsoir Florian.
Bonsoir.
De quoi nous parles-tu ?
Ah, quelle délicate saveur que celle de la mûre ! Au gré des chemins ou sur les étals des supermarchés, je vous emmène à la découverte du plus populaire des fruits des bois. Nous allons ensemble décortiquer la mûre. Suivez-moi dans cette aventure botanico-culino-géographique.
Ça donne envie. Hein. Ouais. On en parle de plus en plus, mais ses origines sont lointaines. Tu nous tiendras au courant de quoi, Jérémy ?
Eh ben, de la voiture électrique. Oh. Après, si tu fais les blagues que je veux faire avant que je les fasse,
ah, merde.
On peut y arriver, Bruno.
Ah oui,
donc,
d'accord.
Comme ça, vous serez au courant de l'origine de la voiture
électrique. Ah oui ! Oh là là, ben oui, on a fait la même école à Vannes. Bon, alors après ta chronique, Jérémy, on découvrira le Graal qui répond aux questions des auditeurs. Aujourd'hui, c'est une histoire de poule et d'œufs. Mais ensuite, ça va rouler avec Mathias. Il a planché pour nous présenter les origines d'un jeu qui ne se démode pas. N'est-ce pas, Mathias ?
Oui, ce soir, je vous roulerai des patins.
Ah d'accord.
Voilà.
On a dit qu'il fallait des introductions qui nous donnent envie, voilà. Donc c'est censé nous donner envie.
Voilà.
Direct. Ok. Il sera alors temps de parler musique avec Sonia qui reviendra cette saison sur les origines des histoires et les histoires des chansons. Bonsoir Sonia, heureux de te retrouver dans CMA.
Moi également.
De quoi on parle ce soir ?
Alors bien, ce soir on va retracer l'histoire incroyable d'un chant qui est connu mondialement, un rythme italien qui reste en tête dès qu'on l'entend. Si je vous dis. J'en dis pas plus.
D'accord, bon, on verra ça. Voilà pour le sommaire de cette première partie. Vous verrez qu'ensuite il sera question de frigo, de maman, de toile de Jouy. Mais commençons par nos premiers sujets dans CMA. Alors Florian, citons le grand poète Patrick Bruel. Combien de murs ? Je pose ça là, hein, tu te démerdes.
Bravo Bruno. Alors pour commencer, on va tout de suite évacuer une question essentielle que tout le monde se pose, j'en suis sûr, c'est comment savoir si la mûre est mûre ? Ouais. Alors à votre avis ?
Si elle est bien noire.
Ok.
Faut la goûter.
Super, voilà. Ça c'est risqué. Hein.
Si elle est pas bonne, elle est pas noire.
Ouais. Ah.
Effectivement, la mûre est consommable à partir du moment où elle est noire. Et oui, donc évitez toutes les vertes, toutes les roses, hein, c'est pas des framboises non plus. Même si la mûre appartient à la même famille de plantes que le framboisier.
D'accord. Voilà.
Bah d'ailleurs, on voit bien, la forme du fruit est le même. Alors, je vais vous faire un petit peu l'origine de la mûre.
Oui, parce que c'est un peu le thème de l'émission
Donc, dans les temps très anciens, les Grecs pensaient que la mûre était issue du sang des titans versé lors de leur lutte contre les dieux de l'Olympe.
Ah, ils allaient sans sombre. Hein.
Et ça s'est répandu sur Terre, comme ça, voilà, avec les...
Ils étaient poètes. Tout...
Eh oui. Ensuite, chez les Romains, il y a Pline, donc c'est le célèbre écrivain latin, qui affirmait même que ce fruit combattait le venin des serpents les plus dangereux.
Mais ils étaient un peu cons, quoi.
Là, oui.
Bon.
Pas sûr.
Faut pas s'emporter non plus, hein, parce que ça pousse très modestement sur des lianes épineuses dans les buissons. Voilà. En fait, c'est une ronce.
Ouais, modestement, non, ça pousse bien.
Non, ça pousse bien, mais c'est un fruit assez modeste, quand même.
Ah, il est petit, oui.
Bah, il est petit, mais pas cher, parce qu'on le cueille gratuitement.
Oui.
Voilà. bon, c'est pas non plus le fruit du siècle. Hein. Mais je dois dire quand même que ça a son petit charme de les trouver... Ça a son petit charme de les trouver sur le chemin. Et de les cueillir en évitant bien sûr les épines et les barbelés, puisque souvent on les trouve aussi avec les barbelés.
Ah oui, dans le bord des champs.
Là où ça va.
Et les punaises.
D'accord.
Et les punaises.
Ah,
et
les punaises aussi dessus,
ouais. D'autres.
Je sais pas où tu veux en venir avec ta chronique, mais vas-y, vas-y.
Non, mais vous inquiétez pas, il y aura une chute à la fin.
Alors, ah, d'accord. Ok, on se prépare.
Deuxième question essentielle, pourquoi la mûre s'appelle la mûre ?
Ah.
Parce qu'elle est mûre.
D'accord. Parce qu'elle est mûre. Pourquoi ?
Parce qu'elle est
mûre.
Le long des murs.
Les titans et les serpents, non ?
Je sais pas.
Alors ça n'a rien à voir avec les titans ni les serpents.
Ça vient de Saumur.
Ça a peut-être à voir un petit peu avec les vers à soie.
Ah bon ?
Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'appelle comme ça tout simplement par analogie au fruit de l'arbre, le mûrier.
D'accord.
Vous savez ce que mangent les vers à soie ? Ils mangent du mûrier.
Ouais.
Ils mangent des feuilles de mûrier. Donc le mûrier, c'est un arbre. Et le mûrier fait des fruits qui s'appellent une mûre aussi, mais c'est la mûre du mûrier. et elle ressemble parfaitement, ou presque, à la mûre de la ronce.
Donc pour bien nous en mélanger tout, on va dire, on va l'appeler pareil.
On va l'appeler pareil. Parce
super
que,
les botanistes. Hein.
Parce que les premiers qu'on trouve, enfin les premiers en tout cas, les personnes qui ont les premiers nommé ce fruit-là, en fait,
ouais.
Ils avaient en référence, ils avaient déjà vu les fruits du mûrier. Et donc en fait, ils se sont dit, comme ça ressemble au mûrier, c'est du mûrier, donc c'est une mûre. Voilà, c'est pareil.
Ils ne se sont pas doutés que la ronce, ça ouais, ressemblait pas trop à l'arbre.
Ouais.
Oui, enfin, il ne faut pas trop leur en demander non plus, déjà.
Ouais. À mon avis, ils n'étaient pas mûrs. Hein.
Ah, voilà. Alors, c'est au XIIe siècle que le mot apparaît... en Europe, pour désigner justement la mûre de la ronce. Donc, on parle même de mûre sauvage, de mûron, de meuron, et en Anjou, on parle de meur.
Ah. Meur.
De meur.
D'accord, c'est de meur.
J'ai jamais entendu parler.
Moi non plus.
La mûre a aussi la mûre.
Ouais, je vais faire de la meur. Non, je vais plus cueillir de la meur. Non, je sais pas, je connaissais
je
pas.
Je mange des meurs.
Je mange des meurs.
Et donc, la ronce, c'est pareil, elle a plein de noms aussi, mais en fait, ça s'appelle aussi du mûrier. Ça s'appelle, on peut l'appeler le mûrier des haies, le mûrier sauvage ou le mûrier du renard. Donc en fait, on voit que les deux noms en fait sont
très,
les mêmes.
Très liés, ouais.
Étymologiquement, c'est la même chose, mais ça recouvre deux espèces végétales très différentes puisqu'elles n'appartenant pas du tout à la même famille.
D'accord.
Voilà pour la deuxième question essentielle. Alors maintenant, c'est le temps fort de cette chronique.
Ah,
quand même. On y est.
Vas-y.
Je me transforme en Jérémy. Oula.
Ah, des murs en plastique?
Non.
Des murs électriques?
Non, non, non.
Des
non,
murs
non,
recyclables?
Non. Vous êtes fort, ça, vous êtes en forme. Bon, ok, la ronce commune, donc elle peut être très envahissante, elle pique, mais surtout ne la coupez pas, parce qu'elle est très très bien pour la biodiversité.
Ok.
Puisqu'elle est mellifère, donc en ce moment,
si tu le dis, on
couper
te croit.
Les plantes mellifères, c'est pas très sympa pour la planète. Donc mellifère, en fait, ça veut dire qu'elle attire les insectes, elle attire les abeilles.
D'accord, tu le dis tout de suite, parce voilà, que là, on n'est pas, on se connaissait pas quand même.
Elle est aussi l'hôte de chenilles de plusieurs espèces de papillons, donc, dont le bombyx de la ronce, le minima bande jaune, le nacré de la ronce, le nacré de la sanguisorbe ou l'espérite du faux-buis.
Ok.
Très mignon tout ça. Elle permet aussi au renard de se réfugier,
okay.
D'où le mûrier du renard. Et puis elle est quand même source non négligeable de nourriture pour les oiseaux, les gibiers et pour nous, les humains.
Très bien.
Voilà. Donc ne la coupez pas, sauf il y a eu une seule exception dans l'histoire. C'est une espèce de ronce en fait, qu'on a éliminée il y a maintenant plus de 30 ans. Et pour le grand bien de tous, c'était la mûre de Berlin.
Ouais, j'attendais. Je me disais, il y aurait forcément une chute.
Ah oui.
Bah, très bien. Oui, bah oui, ok, c'est très bien. Bon, allez.
N'importe quoi. Rebondis là-dessus.
Bah oui, va rebondir là-dessus.
Enchaînons.
Ouais, hein, voilà. Donc, on va recharger les batteries maintenant. Hein. Allez, en voiture, Simone. Enfin, déjà Jérémy. Hein. Tesla, oui.
Oui, j'emmènerai peut-être Simone, on verra. Donc, la voiture électrique, à votre avis, ça remonte à quand?
Bah, je pense à plus longtemps qu'on ne croit.
Ouais, plus 2000. Longtemps qu'on ne croit.
Dès l'apparition de l'électricité, des moteurs, exactement. Les premiers moteurs,
en fait,
je pense qu'on a...
La voiture électrique a été la première voiture tout court, en fait, tout simplement.
Tout court, d'accord.
Il y a plus d'un siècle, les premières voitures étaient électriques, puisque c'était, effectivement, comme tu l'as dit, Bruno, l'invention de l'électricité, très rapidement l'invention du moteur électrique, de la batterie, et donc les premiers véhicules automobiles étaient électriques, puisque c'était le plus simple à l'époque pour faire quelque chose sur quatre roues qui roulent simplement pour...
Donc c'est venu avant la mise en vapeur?
C'est venu... Alors, on avait le train à vapeur avant, ouais. Et à l'époque de la voiture électrique, parce que les gars avaient la classe à cette époque, on avait aussi des voitures à vapeur.
Ouais, c'est ça.
Et des voitures, effectivement, à pétrole aussi, puisque le moteur à explosion commençait à faire son apparition. Mais la voiture électrique était très prisée, puisque les deux autres technologies avaient beaucoup d'inconvénients. Pour la voiture à vapeur, il fallait jusqu'à 45 minutes quand il faisait froid pour la démarrer. Il fallait
bah, être le temps que ça chauffe
pour aller au boulot, voilà. Hein.
Ah, c'est mieux que le 10. Hein.
Fallait recharger en eau régulièrement, hein, la voiture à vapeur. Pour ce qui est de la voiture à pétrole, il y avait un embrayage qui était très complexe à utiliser. Pour la démarrer, c'était très compliqué aussi. Hein, on risquait d'y laisser le bras à chaque démarrage. Hein, c'est le fameux retour de manivelle.
De manivelle, d'accord.
Voilà. C'était polluant, ça faisait du bruit. Donc, parmi ces trois technologies, c'est la voiture électrique qui était la plus prisée à l'époque. Ça a été également le premier véhicule à franchir la barre des 100 km/h. Donc en termes de technologie,
ah oui,
on était vraiment sur quelque chose
déjà
qui
pas
était,
mal.
Voilà, qui était
mais que s'est-il passé?
Pourquoi on a arrêté?
Excellente
alors
excellente question, Soso, puisque à l'époque, en 1900, 33% du parc automobile était des voitures électriques, alors qu'aujourd'hui, on a du mal à atteindre les 10% en 2020, même avec la troisième génération de voitures électriques qui se vend de plus en plus. Ce qui s'est passé, c'est en fait la... il y a trois événements en fait, concomitants qui ont mis stoppé à mal les véhicules électriques. Le premier, c'est la découverte d'importants gisements de pétrole au Texas, qui ont rendu effectivement cette source d'énergie très simple et très peu chère. On a également Monsieur Henry Ford qui, au début du siècle, a lancé sa fameuse Ford T, qui était construite à très grande échelle et qui était donc très peu chère, et qui était 2 à 3 fois moins chère qu'un véhicule électrique. Donc, il a mis à disposition de tout un chacun le véhicule automobile, qui avant était quelque chose pour les élites, qui était effectivement une voiture à essence. Et enfin, l'invention du démarreur électrique qui a enlevé cette satanée manivelle, qui était l'un des derniers points noirs, des véhicules à moteur.
Puis aussi le rapport énergie-route aussi, puisqu'on peut faire beaucoup plus avec un plein que...
Effectivement. Alors jusqu'à présent, à cette époque-là en tout cas, le véhicule électrique était encore très intéressant, puisque en dehors des villes, on avait assez peu de routes pavées et l'autonomie n'était pas du tout un problème, et on va même y revenir, vous allez être surpris. Donc en fait, c'était pas du tout la question de l'autonomie qui était problématique, mais une fois que la Ford T est sortie et que le réseau routier s'est développé, effectivement, l'autonomie est devenue plus importante. Avec le pétrole facile d'accès, on a des stations essence qu'on popait un petit peu partout, donc les gens pouvaient facilement refaire le plein.
Et comment ils la rechargeaient du coup leur voiture alors ?
Eh bien la voiture électrique, ils la rechargeaient sur des bornes de recharge comme aujourd'hui.
De la même façon.
Tout à l'époque était déjà présent. Toutes les technologies qu'on a aujourd'hui pour les véhicules électriques étaient déjà présentes. Et en fait, même avec la dernière génération de voitures qu'on a aujourd'hui, les autonomies qu'on avait à l'époque étaient les mêmes. À batterie équivalente, en fait, on n'a rien inventé. On a des batteries plus puissantes, mais finalement, on a des véhicules qui sont plus lourds, qui consomment plus d'énergie. Et en fait, on a complètement bouffé les progrès technologiques qu'on a pu faire sur l'électricité.
Mais ils pouvaient faire 200 km
avec... Ils pouvaient faire 200 km. D'accord. Il y avait des voitures beaucoup plus légères qui roulaient alors à
30
km.
C'est ça. Voilà. Mais dans Paris, c'est ce qu'il faut, parce que c'est 30.
Ville, voilà, et à l'époque, c'était largement suffisant. Et donc, on se retrouve face à un phénomène qu'on va retrouver régulièrement, je pense, le fameux effet rebond, où quand on a une nouvelle technologie qui arrive, et ben finalement, notre envie de confort, de plus, va venir finalement compenser les progrès technologiques qui pourraient amener à des technologies moins polluantes ou moins gourmandes en énergie, puisqu'on va rajouter des airbags, des sièges confortables, une accélération beaucoup plus puissante aussi. On se retrouve avec des moteurs beaucoup plus lourds qui finalement font que la voiture électrique d'aujourd'hui n'a pas plus d'autonomie que la voiture électrique d'hier. Donc fin de la première ère au début du siècle de la voiture électrique. Il ne s'est virtuellement rien passé entre 1920 et 1970 dans le domaine de la voiture électrique. Ça a été vraiment l'ère de la voiture à pétrole. Sauf une chose, la voiture électrique a encore été la première où ? À quel endroit où la main de l'homme n'avait encore jamais mis le pied ?
Ah oui, sur la Lune ?
Sur la Lune, effectivement, ça a été le premier véhicule à roue sur la Lune.
Le pétrole, ça marche moins bien là-bas.
Voilà, il faut de l'air pour faire fonctionner un véhicule à explosion, et il n'y en a pas sur la Lune. Donc, la voiture électrique a été emmenée avec les missions Apollo pour pouvoir se déplacer et faire des petites balades sur la Lune. En 1970, on a eu le premier choc pétrolier qui a remis au goût du jour les véhicules électriques. On a eu dans les années 90 une première... salve de nouvelles voitures électriques de deuxième génération, du coup, avec des Saxo, des Clio, des 106 électriques, alors qu'il n'y avait pas une autonomie de folie. On est toujours dans les 90-100 km d'autonomie, 90 km/h max, mais qui ont permis de remettre cette technologie au goût du jour. Et aujourd'hui, donc en 2010, on est sur de la technologie lithium-ion avec Tesla, qui est le premier fabricant de voitures électriques, avec la voiture la plus vendue au monde actuellement, qui est donc la Model 3. Donc beaucoup plus d'autonomie, de performance, on a l'autopilote, on a l'écran tactile, etc. Mais comme on le disait juste avant, on n'a pas forcément plus d'autonomie que ce qu'il y avait
avant.
Donc la voiture électrique, c'était mieux après en termes de confort, mais finalement, il y a encore beaucoup de progrès à faire pour
que finalement.
On rattrape.
Soso, elle aime bien le avant, en fait.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film, le début était... Sur ton piano, une mélodie expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui veut bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins aimé? J'ai tout gâché, je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. Perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais dans un miroir sans teint, d'où je te regarde t'en sortir à merveille, épier ton bonheur. Me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Alors, dans les nouveautés de cette année, nous avons créé un nouveau podcast disponible sur Instagram et Facebook. Nous nous sommes donné la mission de répondre à vos questions des plus intéressantes aux plus saugrenues. Et on peut dire que vous avez de l'imagination. Mais bon, c'est notre mission, alors on répond à tout, hein, dans le Graal. Par exemple, Yann nous demande qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Eh bien, voici la réponse du Graal.
Qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule ?
Oh, mine de rien, tu nous as pendu une question intéressante, Yann. En 2010, il était temps, des chercheurs qui n'avaient vraiment rien d'autre à chercher ont pondu un article scientifique indiquant qu'une protéine de la poule était nécessaire à la fabrication de l'œuf. Logiquement, c'est donc la poule qui vient avant l'œuf. Oui, mais en fait, non. Les plus vieux œufs fossiles datent de 190 millions d'années. Et là, les poules, ben, elles n'existaient pas. C'est le règne des dinosaures. Donc l'oiseau, et de fait la poule, est arrivé après l'œuf. Suivant la théorie de l'évolution, un beau jour, un animal difforme de ses semblables est sorti d'un œuf. Cette bête a réussi à survivre et même à se reproduire. Conclusion, c'est l'œuf qui est arrivé avant la poule. Pas la peine d'en faire tout un plat non plus. Alors, c'était le Graal, à retrouver en vidéo sur Instagram et Facebook, hein, sur les comptes Questions Graal. Vous pouvez aussi nous y poser vos questions, soyez curieux et amusez-vous à nous piéger. Alors, il voulait en acheter un, mais hésite encore. Il faut dire qu'on en voit partout, hein, c'est le symbole de la mobilité Jones, maintenant que les vieux se sont appropriés les trottinettes. On surfe sur la mode avec toi, Mathias.
Oui.
Tu parles de quoi ?
Alors, ce soir, je vais vous parler du skateboard.
Ah, c'est ça les patins ?
Oui, c'est d'accord. Ça les patins.
Ah, c'est pas dire... roulage de patins.
Non, elle est déçue. Oui. J'ai l'impression que Soso oui, est déçu.
Écoute, on s'arrangera après si tu veux.
Ouais.
Du coup, alors vous allez voir où je veux en venir, parce que forcément, skate, patin, bon, le raccourci un peu vite fait, mais pas autant que vous croyez, justement.
Ah.
D'après vous, quand est-ce qu'est venu le skateboard ? À quel moment, à peu près, ça pourrait être apparu ?
Je sais pas, les années 60, 70 ? C'était un peu... Ah, il y a Sandra qui dit 50.
Après-guerre, peut-être.
Eh bien, effectivement, la naissance du skateboard a toujours été entourée de mystères. C'est impossible de dater vraiment son apparition, mais ce serait autour des années 50.
Ah !
D'accord. D'après la légende urbaine, le skate a été inventé par des surfeurs californiens qui, lorsque l'océan était plat, cherchaient un moyen de reproduire les mêmes sensations procurées par le surf, mais sans avoir besoin de vagues.
Ah oui, ok. Puis les lacs en pente, il n'y en a pas énormément en fait. C'est chiant quoi.
Du coup, alors. Je ne connais même pas.
J'ai pas entendu ce que tu as dit.
Non, donne une bêtise.
Ouais.
Du coup, ils ont eu l'idée de rider le bitume.
Ça y est, commence pas à nous donner des mots là.
De rider le bitume.
C'est quoi, ça veut dire quoi, rider le bitume?
Rider, c'est quand on glisse avec son skate. Il y a des moments où on roule et hop, des fois on saute et on ride.
D'accord, c'est faire des acrobaties avec le skate, c'est rider.
Oui.
Bon, bah ok. Allez, nouveau mot, c'est bon.
Donc, à l'aide de petites planches en bois auxquelles ils fixaient les roues des patins à roulettes. Sport très populaire à cette époque.
Ah, ça recycle.
Ouais, c'est ça. Enfin, ça recycle. Je sais pas si ça recyclait.
Bah, c'est prenez des vieux patins.
Bah, recycler, ça part de l'idée de prendre quelque chose qui est inutile pour faire quelque chose d'utile. Ouais, alors ça, que là. Ouais. Bon.
Les patins en 50, ça arrivait aussi, tout juste.
Les patins? Je sais pas, ça date de quand les patins?
Moi, je dirais que ça date bien longtemps.
Ouais, plus tard, les années 30, il y avait déjà des patins. Ouais,
Les nanas, tu sais qui servaient là dans les McDo de l'époque.
Les McDo de l'époque. Elle a des références, ce saut. Eh ouais, c'est ça l'histoire.
Mais non, mais tu les voyais avec leurs patins, elles allaient prendre les commandes, oui.
C'est vrai.
Et les patins remontent à très très loin. Du coup, j'ai regardé vite fait aussi sur Internet.
Ah bah depuis le début de l'humanité.
Ça date de quand?
Du 18e siècle.
Ah bah tu vois, alors, donc vraiment très loin. Il n'y avait pas de McDo, mais c'était très...
Alors...
Désolé, Soso.
Dans ces années-là, pendant les années 50, les enfants en fait du sud de la Californie arrachaient les bottes des patins à roulettes, coupaient les plateaux en deux et fixaient les roues qui servaient de trucs sur les planches en bois.
D'accord.
Et à la base, c'était des roues en acier. Donc c'était très compliqué parce que les roues en acier, le moindre caillou, la feuille...
Ah ouais, ça faisait pas très agréable.
Ça bloquait tout de suite. Et en fait, la grande avancée est venue à la fin des années 50, vraiment tout à la fin, avec des roues en argile.
Ah bon?
Ouais, c'est surprenant. Hein,
ouais.
On s'imagine pas aujourd'hui être avec des roues en argile, surtout moi.
C'est fragile quand même, non?
C'était plus fragile, mais...
Je pense, mais le contact devait être moins dur que de l'acier, certainement. Mmh. Enfin,
faire moins de bruit peut-être aussi, parce que l'acier, ça devait être...
Bah, quand il pleut, par contre, c'est embêtant, non?
Non, mais l'argile, une fois que c'est cuit, ça... ça fond pas tout le temps, quand même.
Et alors, du coup... J'ai regardé aujourd'hui les skates, donc on en parle beaucoup, on voit bien que c'est un effet de mode, il y en a aux Jeux Olympiques, enfin on voit bien que c'est tout un concept. Et j'ai regardé sur internet quel était le skate le plus cher aujourd'hui qui se vend sur le marché. Donc ça partait d'une planche en bois avec des roues de patins à roulettes.
D'accord.
Et aujourd'hui, d'après vous, comme ça en...
Ça coûte, mais déjà un skate ça coûte combien à peu près? 60 euros?
Alors un skate ça coûte entre 100 et 150 euros, un skate de base.
Un bon skate.
Voilà,
d'accord. Et donc, ils en font des super classes, quoi.
Ah, ouais.
Il y a peut-être des skates Vuitton ou qu'on demande à carreaux.
C'est qu'une planche en bois, oui. Donc,
c'est quoi? Bon, je sais pas. Allez, 300 euros, 400.
Combien?
20 000.
20 000.
Alors, 20 000, c'est un peu excessif.
Oh. Bon. Crois-tu?
Alors, c'est entre 2 000 et 3 000 euros.
La planche, ça fait cher quand même. Hein.
Bah ouais, hein, c'est un sacré.
Boules, planche,
mais alors maintenant, il faut savoir qu'il y a plein de formes, il y a plein de tailles, il y a des roues différentes, il y a des matières différentes, selon si on veut rouler, si on veut au contraire rider. Puis maintenant, il y en a des électriques. Enfin, il y a vraiment toutes sortes de skates. Et effectivement, ça tape dans les 3000 euros le plus cher.
Ok, bon. Bah écoute, très bien. Merci Mathias pour cette chronique.
Plaisir.
Ah, Florian, oui, tu viens skate.
Et non, mais on a eu les JO quand même cette année.
Oui.
Et le skate a fait son entrée aux Jeux Olympiques.
Aux Jeux Olympiques. Ouais, ça a ride. Donc du coup, ça a ridé, si j'ai bien compris.
Ça a bien ridé.
Ouais. C'était pas pour rouler, c'était pour rider. Ok, bien écoute, merci Mathias. Restez bien avec nous. Dans un instant, on parlera de toile de Jouy avec Caro, tant dire qu'on prendra du plaisir. Mais aussi de voitures et de frigos. Ah oui, je sais, là, ça jette un froid. Mais pour l'instant, place à la musique avec Sonia.
Oui, eh bien oui. Donc ce soir, je vous le disais, nous allons retracer l'histoire incroyable d'un chant connu mondialement. Un rythme italien, je vous disais, qui reste en tête dès qu'on l'entend. Vous connaissez peut-être l'origine du chant Bella Ciao. Est-ce que ça vous parle, ça?
Oui. Je le mets là?
Alors.
Ah oui, ça c'est l'original, ça.
Ouais.
Le premier, tout premier.
Celui qui est le plus connu. Alors, ce chant donc a été repris dans des manifestations comme les Sardines, qui est en Italie un mouvement politique militant italien.
Super le nom.
Voilà, c'est ça.
Les Sardines.
D'inspiration antifasciste, mais également chez les Gilets jaunes, avec leur Macron Ciao. Ainsi qu'également dans la série La Casa de Papel ou bien encore en Tube de l'été, la popularité de Bella Ciao n'est plus à prouver. Et pourtant, ses origines restent floues, mélangeant faits historiques et légendes urbaines. Donc l'histoire d'un tube qui est quand même intersidéral et intergénérationnel. Alors, il faut que vous sachiez quand même que tout commence dans le nord de l'Italie à la fin du 19e siècle. Des saisonnières agricoles qui cultivent du riz et qu'on appelle les mondines. Donc elles étaient repiqueuses, elles étaient très mal payées, elles travaillaient dans des conditions très difficiles et pour se donner du courage à l'époque, elles ont, et aussi pour dénoncer leurs conditions de travail, elles fredonnaient des chants dont ce fameux Bella Ciao où elles racontent leur quotidien qui était difficile. Donc ça date de cette époque-là. Et puis finalement, c'est grâce à Giovanna da Fini, on va l'entendre en fond, qui était une chanteuse populaire de l'époque, qui va offrir une nouvelle vie finalement à, à ce chant hein, lors de mariage. Et puis ensuite, elle va s'engager hein, dans la résistance antifasciste italienne durant la Seconde Guerre mondiale. Et la chanson va poursuivre sa route chez les partisans. Hein, donc c'est là qu'on va, on va parler d'un chant partisan. Et les couplets vont être réécrits à cette époque, hein, pour l'occasion, en chant partisan. Voilà, donc là on l'entend chanter cette Giovanna da Fini, finalement, qui a remis au goût du jour un petit peu Bella Ciao. Et puis finalement, cette chanson, on la connaît, on l'entend, on l'a entendue moult et moult fois. Et puis, elle a été, le chant a été repopularisé, je pense que ça va vous parler, il y a quelques années avec une célèbre série. Si je vous dis La Casa de Papel, est-ce que ça vous parle?
Bah oui, forcément, oui. Forcément.
Ouais. Eh bien, cette série espagnole à la popularité internationale a débarqué en 2017 et elle a été ensuite rachetée par Netflix et donc elle a remis au goût du jour hein, ce chant. Alors, si vous êtes comme moi et que vous n'avez jamais vu un épisode de Casa de Papel, si comme moi vous ne savez pas de quoi ça parle, eh bien, juste une petite info. Donc, c'est un homme mystérieux surnommé le professeur ou elle professeur, je ne sais pas, qui va planifier le meilleur braquage jamais réalisé au monde. Et pour exécuter son plan, il va recruter les 8 meilleurs malfaiteurs d'Espagne. L'objectif étant effectivement de pouvoir réaliser d'infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer plus de 2 milliards d'euros en petites coupures et tout cela sans faire de victimes. Alors en tout cas, entre La Casa de Papel et le tube de l'été 2018, eh bien, il n'y a qu'un pas qu'a franchi Maître Gims, puisque lui aussi fan de la série, il a eu envie de reprendre à son tour Bella Ciao. Et il a réuni autour de lui Slimane, Vita, Dadju et Maestro. Et donc ça donne ce son.
Una mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi son svegliato. Ed ho trovato l'invaso.
Tu m'as tant donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours.
Continue sans toi, va m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi. T'en prie, pardonne-moi. Et à contre-cœur, oh bella ciao.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la la.
T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crié que je t'aime, brisé mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire.
la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la 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 la.
Au fil des décennies, Bella Ciao a été moult fois repris et interprété. Et pour finir, voilà un aperçu de ce que ça peut donner version techno-électro. En tout cas, l'histoire de cette chanson n'est sûrement pas terminée, hein, et on se donne rendez-vous peut-être dans 40 ans et on en reparlera.
Ouais.
Pas vrai tout.
Pourquoi pas. Vous êtes dans CMA, l'émission C'était mieux après, qui recherche les origines des choses pour mieux les comprendre. Vous nous écoutez sur Radio G 101.5 FM à Angers ou partout dans le monde sur fréquencezig.com et Spotify. On a parlé de murs, on a parlé de voitures, de skateboard et de révolution. Mais la suite nous réserve encore de bons moments. Sommaire. Bonsoir Sandra. Tu as passé brillamment le cap de ta première chronique. Hein. Tu as même été sélectionnée pour être dans les podcasts plus du site de Radio G. Alors ce soir, tu as un sujet tout frais, c'est ça ?
Oui, alors ce soir, c'était le challenge de parler du frigo, qui effectivement, c'est pas si facile que ça de parler du frigo. Hein.
C'est tout de suite. C'est pas facile de parler du frigo. Bon, bah d'accord, on verra pourquoi c'est pas facile.
C'est glacial. Okay.
On verra. Pauline, on parle de quoi ce soir ?
Eh bien, de l'instinct maternel. Ah. Et les mamans sont censées tout savoir, donc, d'où l'instinct maternel. En fait.
D'accord, ok.
D'où ça vient.
Voilà. Ensuite, on retrouvera notre styliste. Alors, on aurait pu parler de toile de jute, mais non.
Oh non.
Ouais, fallait que ça fasse. On parlera de quoi ce soir, Caro ?
Mais ce soir, on va voir les origines de la toile de Jouy.
D'accord.
Un tissu qui revient en grande forme et on va essayer de le traiter sans éclaboussure.
Ah bah, tu vois, hein, on n'était pas loin quand même. En fin d'émission, on retrouvera également notre chanteur youtubeur Francotti pour quelques plagiats bien sentis. Alors ne perdons pas de temps. Voici la deuxième partie de CMA. Saura-t-on enfin si la lumière s'éteint vraiment quand on ferme la porte du frigo ? Peut-être. Voici la chronique de Sandra.
Alors figurez-vous que depuis quelques jours, j'ai un nouvel ami qui adore ma cuisine. Je ne me lasse pas de le contempler. Il est droit, massif, avec un corps d'acier. Il prend soin de moi, me nourrit, me sert à boire quand j'ai soif et s'illumine dans la nuit.
Oh.
Je vous présente mon ami le frigo. Je lui ai déjà donné plein de surnoms. Le frigo, le réfrigérateur, le frigidaire. Et à votre avis, est-ce qu'il n'y aurait pas un intrus parmi ces surnoms ?
Le frigo.
Le frigo, le réfrigérateur et le frigidaire.
Alors frigidaire, je pense que c'est une marque, c'est ça ?
Non, voilà. C'est le hein ? Ah oui. Non, ou c'est pas le frigo qui est une marque ? Justement.
Ah, alors, c'est frigidaire, je crois. Alors, on va voir.
Non, pas dit. Alors, effectivement, c'est le frigidaire. Donc, le frigidaire, c'est une marque inventée par Electrolux en 1918. Et finalement, bah, j'allais dire, on nomme souvent les choses en fait par leur marque et c'est un tort. On pourrait prendre l'exemple du sopalin, oui. On devrait dire un papier absorbant, le scotch, on devrait dire.
Le Kleenex, pour tout à l'heure.
Effectivement, ouais. Le Kleenex, on pourrait dire des mouchoirs.
Le Kärcher.
Aussi, ouais, tout à fait.
Le les scotch, poubelles. Ruban adhésif, etc. Donc. Et donc, pour en revenir au frigo, donc au réfrigérateur, son nom vient du latin refrigerare, qui veut dire refroidir, rafraîchir. Le principe même du frigo étant de pouvoir conserver les aliments en suspendant la vie. Ce qui veut dire qu'il ne tue pas.
C'est joli.
Ouf, mon frigo n'est pas un serial killer. Mais qu'il paralyse sur un laps de temps les bactéries qui pourraient se développer. En fait, on pourrait prendre en comparaison, enfin, je ne sais pas si j'ai pris la bonne comparaison, mais en tout cas, je me disais l'anesthésie lors d'une opération, par exemple. On suspend la vie, mais évidemment, on ne va pas tuer, heureusement.
Ah, c'est mieux en général.
Ah, ouais. Mais je préfère l'anesthésie si on me met dans un frigo avant de m'opérer.
On doit la première machine frigorifique à Charles Tellier, qui inventa l'industrie du froid afin de conserver les aliments lors de fortes chaleurs vers 1869. Mais cette technique, effectivement, elle va mettre des années à se développer, en fait. C'est juste... c'était un prototype, on va dire.
Mais c'est récent. C'est-à-dire qu'avant, en 1869, comment on faisait pour garder les aliments au frais, alors, du coup ?
Alors ça, je vais effectivement
pardon,
le dire
excuse-moi.
Après. Donc, j'ai oublié de vous dire que je suis hyper fière, effectivement, de mon frigo parce qu'il est américain. Et oui, je sais, c'est l'Atlas. Le frigo américain, le frigo du futur. Et finalement, son ancêtre était aussi américain. Donc finalement, pas si futuriste que ça. Hein. Avant, on utilisait la glacière, en fait. Avant le frigo, c'était une glacière. Et le premier réfrigérateur fut inventé en 1911. Mais il est commercialisé, en fait, qu'à partir de 1926 par le groupe américain General Electric. Mais celui de 1926, si vous préférez, il avait un prix très élevé. Il était,
que pour les professionnels, du coup.
Non, mais il était réservé, oui, à des professionnels, mais aussi à la classe bourgeoise, en fait, qui ne pouvait plus se payer des domestiques après la Première Guerre mondiale, en fait. Donc c'était vraiment cette idée-là.
On a remplacé les domestiques par des frigos.
C'est un peu ça. Oui, c'est ça. Ils cherchaient de nouveaux appareils, on va dire, pour résoudre leurs problèmes ménagers. Et donc, il faut attendre les années 1950 pour que tous les foyers, en fait, commencent à être équipés, finalement, du frigidaire. Faute. Une faute.
C'est vrai, elle a dit. Je pense qu'elle était dans le texte.
Oui, exactement.
Même pas. Donc, c'est grâce à la création du Salon des arts ménagers à Paris, au Grand Palais, fondé par Jules-Henri Breton en 1923, que l'essor de l'équipement ménager fait son apparition. Il lance un concours des appareils ménagers destiné à soulager les tâches pénibles des femmes de modestes conditions. Finalement, quand je regarde mon nouvel ami le frigo, je me demande que ferais-je sans lui. Est-ce que je serais obligée d'aller puiser de l'eau au puits ou à la source d'une rivière? Est-ce que je serais obligée de cueillir dans les champs ou sur les arbres fruitiers?
Des murs, par exemple. Bonne idée.
Effectivement, alors comment conservait-on les aliments avant l'invention du frigo? Alors premièrement, au tout début, en fait, on enlevait au maximum l'eau des aliments par salaison ou séchage. En fait, c'était le sel.
Oui,
en fait, il sert énormément. Enfin, il sert à conserver les aliments pendant plusieurs mois parce qu'il absorbe l'humidité. Mais après, si on met, alors j'ai bien compris, si on met plus de 10% de sel, en fait, les aliments peuvent devenir immangeables, quoi.
Un peu trop salé.
Mais en fait, ça tue. Enfin, oui, c'est ça. Ça tue pas. Hein, j'ai bien dit ça. Mais ça neutralise les microbes, les bactéries.
Ils ont besoin d'eau pour vivre, et donc ça les enlève, d'accord.
Et dans les châteaux, alors je l'avais déjà vu lors d'une visite. En fait, dans les châteaux, en fait, jusqu'au 19e siècle, en fait, il y a des grands étangs dans les parcs, et du coup, en hiver, il y avait de la glace, si vous préférez. Et cette eau glacée, en fait, on pouvait en extraire des gros blocs de glace, en fait, qu'on mettait dans les caves pour conserver les aliments.
D'accord.
C'était comme ça, en fait.
Il faisait venir de la glace aussi des montagnes, je pense, aussi.
Ah, peut-être aussi. Je me souviens de ça, là, les grands des lacs. Donc, savez-vous que mon frigo aurait pu être le star de cinéma? Il aurait pu voyager dans le temps. En effet, tout le monde se souvient de la voiture DeLorean. De Doc et Marty dans Retour vers le futur. Eh bien, initialement, cela devait être un frigo à voyager dans le temps.
Oui, ça aurait été moins classe.
À la place. Voilà. Et la légende raconte que Steven Spielberg, en fait, aurait insisté pour changer l'idée parce qu'il avait peur que les enfants s'enferment dans le frigo pour imiter le film. Et mon frigo, je termine, mon frigo n'est pas un frigo connecté qui sait faire les courses, détecter un aliment périmé, me diffuser de la musique. Mais il n'a pas à être jaloux car le progrès n'est pas toujours source de désir. Parce que mon frigo mythique reste celui de ma grand-mère qui est gravé dans mes souvenirs comme une image d'Épinal. C'était un grand réfrigérateur couleur bordeaux à pédales. C'est-à-dire qu'il fallait appuyer sur une pédale avec le pied pour ouvrir la porte du frigo.
Ce qui n'est pas con.
Un modèle de réfrigérateur qui a totalement disparu, à mon grand regret.
C'est vrai, c'est quand tu as les bras chargés et que tu veux ouvrir la porte du frigo.
Il était magnifique et je me souviens toujours de ce frigo couleur bordeaux. En plus, bordeaux, ça ne se trouve pas facilement maintenant. Il était à pédale, j'appuyais sur...
D'accord.
Des petites, mais qui datent sûrement des années, 1960. Et donc, je vais vous laisser sur ce slogan de la marque Frigidaire en 1950. Le robot ne remplace pas la femme. Mais devient son meilleur ami. Alors consolez-vous, vous n'êtes plus seul.
Pas du tout, d'accord.
C'est du bon slogan rétro.
Et puis oui, bien, pas du tout misogyne, effectivement. Oula, dans l'émission précédente, on s'est pris une grande claque avec Pauline, complètement déchaînée. On a même eu des messages d'auditeurs qui se demandaient ce qui se passait. Ça dénonçait sévère. Est-ce que ce soir t'es plus calme, Pauline?
On va essayer. On va essayer. D'accord. Et oui.
Ah oui, bah non,
alors. Ces petites phrases qu'on entend au repas de certaines familles. Bon, alors, il se nourrit bien. Tu l'habilles en quel âge? Ou alors, est-ce qu'il a appris à marcher maintenant? Est-ce qu'il fait ses nuits? Toutes ces petites phrases, et bien souvent, on les adresse à qui?
Bah à la maman, à la nouvelle maman.
À la maman. Oui. Parce que voilà, et ben on se dit, elle a forcément l'instinct maternel. Mais alors, d'où ça vient ? La grande question que je me suis posée. Alors avant l'instinct maternel, bah, n'existe pas. Avant qu'il n'existe, effectivement, eh ben, on n'en parlait pas, vu que ça n'existait pas en soi, mais on faisait tout collectivement. Donc jusqu'au 15e siècle, s'occuper d'un bébé, on s'occupait de la mère aussi, donc grâce aux matrones, aux nourrices, aux grands-mères, voilà, y a toute la communauté des femmes, en fait, qui s'occupait du bébé et de la maman. Et donc, elle avait le droit à ses 40 jours, son mois d'or, normalement. Mmh. Et cette tradition, elle persiste encore aujourd'hui dans les pays asiatiques et au Maghreb. Mmh. Et pourquoi ça s'est arrêté en France, direz-vous ? Eh bien, parce qu'on a l'instinct maternel et donc on peut se débrouiller toute seule. Alors, mais qu'est-ce qui a déclenché, en fait, cette solitude, on va dire, chez les mères, eh bien, tout simplement. Alors, est-ce que vous avez une petite...
Bon, ça doit être l'idée d'un homme, ça.
C'est possible.
Alors oui, c'était surtout la communauté des hommes, des politiques qui ont fait en sorte que ce soit fait. Mais ça date du fin 15e siècle, de la fin du 15e siècle. Il y a eu un drame à cette époque-là. J'ai nommé la peste. La peste. Et là, donc, tout le monde était désemparé, évidemment. Et donc, on a un groupe de mecs hein, qui se sont dit, bon, allez, on est un peu dans le caca.
Il y a trop de morts, c'est ça ?
Il y a trop de morts.
Il faut refaire des enfants.
On va essayer de mettre un peu de main-d'œuvre sous notre aile. Hein. Et donc, l'utérus des femmes est devenu une propriété publique, en fait. Tout simplement.
C'est beau.
Et donc...
Voyons, ça donne envie.
Et donc, on a fait, à partir de cette époque-là...
une politique d'enfant, quoi. Fallait faire vraiment beaucoup d'enfants.
Fallait procréer à mort. Et puis, on a divisé toutes les communautés de femmes, en fait, qui se transmettaient le savoir de mère en fille. Enfin, là, tout ça, c'est réduit à peau de chagrin. Et puis, c'était interdit, même. Et puis, on a fait la fameuse chasse aux sorcières. Puisque toutes les femmes qui connaissaient le corps des femmes en général, qui connaissaient comment allaiter, comment s'occuper de leur gamin, on les a tués en fait. Quoi de plus radical ?
Mais je comprends pas du tout pourquoi.
Parce que les sorcières c'était un peu les sages-femmes de l'époque.
Ouais. C'est ça, et c'était pas bien pour les enfants.
Si on voulait avoir des enfants. C'était bien pour les enfants, sauf que je suis désolée, mais la communauté d'hommes de l'époque, les médecins de l'époque, les politiciens de l'époque, eh bien, ils voulaient garder un certain pouvoir sur les femmes.
Ah, d'accord.
Or, le pouvoir de procréer et de maintenir cette procréation, finalement...
C'était que de la femme, et ça les gavait.
Bien, bien énervés, hein, okay. Au point de les tuer et de les lapider.
Ah ouais. Ça n'a pas d'avis.
Donc,
c'est pas la seule raison pourquoi on a fait la chasse aux sorcières.
Non, pas tout à fait. Mais c'est ça qui est.
Tu te lances dans un truc.
Mais ça a aidé, on va dire. Et donc, on a eu des docteurs mâles qui se sont mis à accoucher les femmes, à s'occuper des bébés et des mères.
D'accord.
Et donc, les mères, du coup, se sont retrouvées isolées parce qu'en fait, elles se sont dit, voilà, on se débrouille. Et puis le savoir qu'on avait avant, en fait, a été perdu. Donc, on s'est dit, ça a dû être comme ça tout le temps. Eh bien, non ! Eh bien, non, je m'insurge ! Ça n'a pas été comme ça tout le temps. Tout ce savoir perdu et que maintenant, nous, on doit choper dans les livres. Choper dans les livres, choper dans le bouche à oreille. Donc, on est bien démunis. Et donc, c'est à partir de cette époque-là qu'on a créé, justement, la nature féminine, l'instinct maternel, et donc tous ces politiciens, médecins, tout ça, on dit aux femmes, débrouillez-vous, vous avez l'instinct maternel, on a créé l'image d'une mère idéale à cette époque-là, et tout est parti de là, en fait. Donc vous m'avez bien entendu, l'instinct maternel est un mythe, ça n'existe pas.
Donc, aïe, aïe, aïe.
Alléluia. Et oui, une pure création de l'esprit des politiques, des juristes, des penseurs, des médecins de l'époque, qui voulait faire en sorte que les femmes se débrouillent toutes seules pour enfanter, et sur elles reposera la totale responsabilité du bien-être des membres de sa famille. Que dites-vous de cela, quand même ? C'est quand même une sacrée mission.
Tout à fait.
Donc, le mythe aussi de la ménagère est né aussi. Donc, aucune destinée à ça, hein, mesdames. La maternité...
ce n'est pas forcément notre destinée. On n'a pas forcément à comprendre tout de suite dans le regard de notre enfant, non. Donc, on peut s'entraider. L'important, donc, c'est bien de comprendre que ça a été une construction sociale qui répond à un projet politique précis. Une petite note d'espoir, on va dire.
Il y a un instinct paternel.
On va dire déjà qu'il y a effectivement les hommes qui ont le même ressenti que nous, et donc finalement c'est les parents qui connaissent le mieux l'enfant, et c'est eux qui savent le mieux les besoins et comment s'occuper le mieux de leur enfant, tout simplement.
Parfait.
Donc
merci.
Faites-vous confiance, père et mère.
Respirez les mamans un peu.
Et arrêtez de culpabiliser les mères qui n'ont pas d'instinct maternel, puisque ça n'existe pas.
Do you remember how we lit up the room? And how you felt before you met all my different moods? I know I drive you mad when I hit you with the truth. Oh. Don't let your mind think it's someone.
Dans les questions existentielles que vous nous avez posées sur le compte Question Graal, Instagram et Facebook, il y a eu pain au chocolat ou chocolatine? Ben voici la réponse du Graal.
C'est sans fin, ça.
Question de Franck de Vendée. On dit chocolatine ou pain au chocolat?
Non mais dans quoi tu t'es fourré avec ta question, Franck? Bon, on va y répondre. Le pain au chocolat ou chocolatine, c'est la même chose, hein, est une viennoiserie. On s'est en effet inspiré dans les années 1830 des gâteaux de Vienne, car on était très potes avec l'Autriche. Et le pain brioché fourré au chocolat s'appelait le chocolatine croissant. Phonétiquement, ça s'est transformé en chocolatine. Quand les pâtissiers ont revisité le chocolatine croissant en utilisant de la pâte feuilletée, ils l'ont appelé pain au chocolat. Mais dans le sud-ouest, l'accent chantant de chocolatine était plus adapté au patois de la région. On a donc gardé cette appellation alors que partout ailleurs, et donc aussi en Anjou, on mange des pains au chocolat. Mais si vous voulez débattre, eh bien aux US, on dit aussi chocolat et croissant. Hein, alors faites-vous plaisir.
Du coup, c'est pas la réponse.
Alors, Elle n'a pas du tout écouté. Elle disait, c'est quoi la réponse? On vient de la dire. Alors, tu réécouteras le Graal. C'était sa réponse. Posez vos questions des plus loufoques aux plus existentielles sur l'Instagram. Question Graal. Allez, c'est le moment où on jouit. Voici la chronique de Caroline.
J'en ai marre de vous. Bon, je vous laisse 10 secondes pour vider votre sac et faire toutes les blagues cucu sur toile de jouy.
C'est fait, voilà.
Voilà, c'est le moment. Qui a quelque chose à dire? Florian, tu peux peut-être...
C'est la toile de jouy.
Non, c'est très joli.
C'est très joli.
Comme ta robe.
Oh, merci. Alors, pourquoi ce thème de la toile de jouy? Eh bien, parce qu'elle fait un retour en force depuis ce début d'année sur les podiums. On la retrouve chez Acne Studio, chez Stella Jean, surtout chez Dior, et Lancel qui, depuis plusieurs années, en met à l'intérieur de tous ses sacs. Et alors, Dior, là, a fait un carton. Il a sorti le nouvel lead bag, le Dior Book Tote imprimé toile de jouy. Du coup, on le retrouve partout, en tapisserie, en collection enfant, en nourrisson. On adore. C'est un intemporel. T'as pas l'air de beaucoup aimer.
Le truc, c'est que je sais pas du tout ce que c'est, donc...
Eh bien, je vais vous expliquer tout de suite.
Ah, oui. Ça se met en mur ou en rideau.
Mais d'où vient
ça,
la toile de jouy? En fait, c'est très simple. La toile de jouy a été créée au XVIIIe siècle par l'industriel textile Christoph Philipp Oberkampf.
D'où jouy?
On connaît tous son nom, la station de métro, tout ça.
Ah ouais.
Mais on ne sait pas qui c'est. C'est un industriel.
D'accord.
Qui est à l'origine de ça. Il est fondateur de la manufacture royale des toiles imprimées. Et cette manufacture était située où? Dans les îles Vilines, à Jouy-en-Josas.
D'accord.
Et voilà. Donc à son origine, elle est en coton, fond écru et scène pastorale de l'époque, plutôt bleu ou rouge. Alors aujourd'hui, on retrouve des versions exotiques avec des palmiers asiatiques ou juste illustrées de fleurs, ça s'appelle des indienneries. Et pour les plus coquins, il y a la version Olé Olé de l'éditrice Pascal Risbourg. Vous verrez sur mon Insta, parce qu'en fait...
C'était monochrome ou c'était couleur un peu flashy dans tous les sens?
Non, c'est pas flashy en fait, c'est des petites scénettes en fait qui sont répétées plusieurs fois.
D'accord.
Sur un fond écru. Voilà, c'est plutôt bucolique,
c'est campagnard.
C'est vintage, c'est souvent la campagne, oui, c'est des périodes de l'année, lorsqu'on ramasse les épis de blé, les choses comme ça.
D'accord.
C'est romantique aussi, un petit peu. Et donc, il y a une version très, très coquine, qui est disponible sur mon Insta, CarolineThMS.
Ok, allez, ça c'est fait,
c'est passé.
Et vous verrez, c'est très drôle. Tout le monde, en fait, l'a adopté et l'a détourné.
C'est un string jouy? Parce qu'on ne doit pas voir grand-chose sur l'histoire qui est imprimée quand même, si c'est un string.
De quoi?
Tu dis que c'est des trucs coquins?
Non, c'est pas un string. Ah non, les scènes sont coquines en fait. On retrouve des dames qui montrent leurs fesses et leurs attributs.
Ah.
Mais allez voir sur mon Insta parce que c'est très rigolo, c'est très subtil et c'est hyper chic en décoration en fait. Vous
mettez ça... Ah bah oui.
Vous mettez ça dans la chambre d'amis. Mais
évidemment, dans la chambre du bébé. Voilà.
Du coup, moi je l'ai et c'est très drôle.
Oui.
Ça fait toujours son petit effet.
Ah bah oui, tu m'étonnes, oui.
Enfin bref, la toile de jouy, on aime parce qu'on peut en mettre partout. Facile. Et je parle bien sûr...
J'avais pas l'image. Ah non, mais si tu l'es fait toi-même, ça
je
va
peux,
plus.
Je parle bien sûr en ameublement, en rideau, en sac, en robe. C'est chic et surtout, c'est très Frenchy.
Ah oui, bah oui, forcément, parce que c'est joli. Ça s'est exporté quand même pas mal
Ça s'est exporté. En fait, c'est un petit signe maintenant de noblesse, de bourgeoisie, etc. Ce sont surtout les familles issues d'une certaine classe qui l'ont adopté. Mm-hmm. Mais maintenant, ça se décline un petit peu en décalé pour...
Super.
Toutes les sortes pour tous les gens.
Eh bien, c'est génial. C'est merci, bon. Caroline. Dans CMA, on revient sur les origines des choses. Certains chanteurs n'aiment pas ça, car ils plagient leurs petits camarades pensant que ça ne se verrait pas. Eh bien, c'était sans compter sur Francotti.
Connaissez-vous Luiz Bonfá? Ce guitariste mythique de la musique brésilienne et du jazz a composé en 1967 Séville. Séville, c'est ça. Non. Après deux albums inconnus en Europe, le chanteur Gauthier cartonne avec son tube Somebody That I Used To Know. Numéro 1 dans 18 pays et plus de 12 millions d'exemplaires vendus en 2012. Mais en oubliant de créditer Luiz Bonfá, à qui Gauthier a samplé l'intro de son titre Séville. Vous l'aurez vous-même reconnu. Bon, Luiz Bonfá, lui, il est décédé. Mais avant même qu'une plainte soit déposée par ses héritiers, Gauthier a accepté, après négociation, de verser aux héritiers du guitariste 45% des royalties, soit 1 million de dollars rien que sur la première année d'exploitation du morceau. Une somme qui a bien sûr augmenté depuis, puisque le Brésilien est maintenant sur les crédits de la chanson en tant que co-compositeur. Pour résumer, la moitié de tout ce que rapporte la chanson de Gauthier retourne aux héritiers de Louise Bonnefoy. Et c'est bien joué de sa part à Gauthier, car si une plainte était déposée et que le plagiat a été reconnu par la justice, le chanteur australien aurait peut-être dû verser l'intégralité de sa chanson aux héritiers de Louise Bonnefoy.
Voilà, c'est la fin de CMA. Merci aux chroniqueuses de ce soir. Merci Pauline, merci Sandra, merci Sonia, merci Caroline et merci aux chroniqueurs Florian, merci. Mathias, Franck, Jérémy. Et puis on a également du public ce soir. Voilà, donc bravo. On remercie Robin, on remercie Ellie et on remercie Quentin.
Et merci à toi Bruno.
Oui, aussi. Alors vous nous retrouvez en podcast sur le site radio-g.fr. Et en attendant, vous pouvez nous proposer des sujets, des questions sur nos réseaux sociaux. Alors on va se quitter sur la parodie du jour. Alors, l'original, je sais pas si vous connaissez, ça donne ça.
Ne me raconte pas d'histoire.
Oh mon Dieu.
Hein, tu sais bien
qui chantait ça,
qui ne tourne pas rond.
Camille Lelouch et...
Grand Corps Malade.
Tout à fait. Donc, c'était Mais je t'aime. Donc, la parodie est bien corsée. Hein, c'est chanté par Édouard Delognon, dit Grand Corps Mulet.
Oh non.
Et Ambre Larazette. Ah ouais, non, mais c'est... Et le titre, c'est Mais je te tège.
Oh non.
Ah ouais, non mais vous allez voir, c'est bien. Allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours, même heure et même endroit. Alors d'ici là, bah vous aussi, soyez curieux de tout et n'oubliez pas qu'on ne peut pas être sans avoir été. C'était CMA.
Ne me raconte pas d'histoire. Tu sais bien, il n'y a plus rien qui tourne rond. Chez toi, tu m'en demandes un peu trop. Tu fous rien, l'appartement est immonde. Depuis des mois, tu te comportes comme un porc. Tu fais des proutes, tu te comportes comme un porc. T'arraches tes croûtes, je sais que je vais te quitter. Et je suis bien bien sûre de moi. J'ai déjà baisé ton pote, quand est-ce que tu comprendras que je te tège.
Bah, t'es où?
Oui, je te tège.
Quoi?
Je te tège.
Pourquoi j'ai fait quoi?
Je te tège.
Putain, tu veux faire un break?
Je te tège, je te tège.
Je vais acheter un break.
Je te tège, je te promets, j'en peux plus.
Oh, t'as tes règles, c'est ça, c'est pour ça. Ouais, les trucs de gonzesse.
Ouais. Je te tège, es-tu hors de ma vue?
Tu m'avais dit on fait un break, à cause d'un paix, tu me dis adieu. Si j'aurais su, je me serais retenu. Je suis désolé, ça pique les yeux. Pourtant, j'avais tout bien fait, qu'est-ce qu'il faut? J'allais même repasser mon polo. Souviens-toi, le chiquito, le bowling, notre premier date au Buffalo. Notre amour est plus fort que quand Mbappé met un but. Si je dois choisir entre toi et le foot, la question, elle est vite répondue. Allez, on oublie tout, toi et moi, on prend la route. J'ai pris une suite au Formule 1. Je te dis pas combien ça me coûte.
Non, je te tège.
Pourquoi?
Vraiment, je te tège.
T'es sûr?
Je te tège.
C'est parce que je couche avec ta sœur.
Je te tège.
Ça va, on fait tous des erreurs.
Je te tège.
Tu savais pas que j'étais mineur.
Je te tège.
Bah,
je te tège. Frère, j'en ai plein le cul. Je te tège. Trouver une rime en U.
Putain, on avait zappé ça.
Bébé, je comprends pas ce que tu me reproches exactement. Ok, je t'ai trompé quelques fois, mais jamais avec belle maman. Et la voisine, tes copines, ta cousine, bon, c'est pas de ma faute.
Couché avec ma cousine?
De toute façon, personne t'arrive à la cheville. T'as mis la barre trop haute. Je t'aime de fou, je t'aime de trop. J'ai gravé ton nom sur mon pectoral. Allez, tourne-toi, je te fais un gosse. T'es ma jument, je suis ton carrosse.
Quoi?
Je suis désolé, je suis pas Rimbaud. Je fais qu'est-ce que je peux avec mes mots. Mais je te promets qu'à l'avenir, j'essaierai peut-être te faire jouir.
Ok, je crois que t'as pas compris en fait.
Tu te casses, loin de moi. Je te l'ai déjà demandé 25 fois. T'es raciste, ça je peux pas.
On est quand même un peu envahi.
Tu mets des posters d'Hitler dans les chiottes.
Tu m'as demandé de
décorer. Et tu crois pas en la Shoah, tu es un fasciste. Tu votes FN.
On dit RN.
Tu veux cramer Barbès et l'Algérie. La Seine-Saint-Denis, tu es complotiste.
La terre est plate, chérie.
T'es anti-masque. Anti-vaccin.
C'est intégré par les Chinois, non?
T'es pas Charlie, donc.
C'est qui Charlie?
Je te tège, je te tège, je te tège, oh, ouais. Je te tège, je te tège, je te tège, comme
montage à mes pièges. Je te tais, je te tais, je te tais, je te tais. Mais je te tais.
Aïe, j'avais réservé le courte paille.
Puis arrête avec ton slam là.
Oui bah, je t'emmerde, c'est une rime riche.